Il est 5h10, fait noir, c'est lundi. 0 degré ce soir et cette nuit, le mercure bouge pas. 30% les probabilités d'averse de neige. Demain nuageux, peut-être quelques flocons en matinée avec un maximum de 4 degrés. Mercredi, de la pluie intermittente avec un maximum de 3 et de la neige intermittente pour jeudi, un maximum de 0. Comment ça va sur les routes, Audrey?
Ça a vraiment pas été si pire aujourd'hui, puis honnêtement, c'est pas mal dégagé. Là, il y a Capitale, direction Est, hauteur Robert Bourassa, où c'est pas terminé. L'entrée des ponts, direction Sud, encore un peu difficile, mais pour le reste, ça roule super bien. Il y a quoi que ce soit, 88-971-1021, texto.
Évidemment, dans l'actualité des deux dernières années, la nouvelle vague de violence, entre autres sur le marché de la drogue, mais aussi les groupes criminalisés, c'est redevenu une inquiétude pour bien du monde. Et je pense que quand tu regardes les histoires une par une, c'est devenu de l'inquiétude pour bien des parents aussi.
Oui, mais pense à chaque fois que je fais les nouvelles puis qu'on se retrouve avec des faits divers, des arrestations, des jeunes d'âge mineur. Puis là, tu donnes les âges, puis les larcins que tu entends, c'est pas les flots qui ont mis le feu dans le conteneur à vêtements la semaine passée. Là. C'est des histoires de vol de voiture, d'intimidation, de port d'armes. Puis on dirait que plus ça va, plus le criminel moyen diminue dans son âge. Hein?
C'est de l'actualité que j'ai manqué parce que j'étais en relâche avec les boys, mais le service de police de la Ville de Québec avait sorti une campagne qui s'adresse aux parents inquiets puis aux jeunes aussi concernant la violence puis l'accès aux groupes criminels.
Oui, puis eux autres, leur objectif, c'est d'aller faire de la sensibilisation vers les vraiment très jeunes. Fait que tu sais, avant l'âge de 13 à 15 ans, dans ce coin-là. Puis de ne pas faire ça de manière quétaine, comme mettons la gang allumée quand on était jeune, là, fume pas, c'est mal. Fait que tu sais, de vraiment les sensibiliser sur le fait, hey, il y a des risques, puis ça se peut que vous ne les voyez pas venir parce que les gens qui vont vous prendre là-dedans sont brillants, puis ils savent comment faire les choses.
Leur approche avait été franchement intéressante. Ils s'étaient rendus dans des friperies. Ils avaient mis des vêtements, des vrais vêtements troués par balles. Puis ils avaient mis un code QR sur le support avec le slogan « Troué par balle » puis le logo du SPVQ. Puis les jeunes pouvaient aller carrément voir la capsule, mettons, du jeune qui s'était laissé embarquer. C'est un peu ça le principe.
Oui, bien, je suis sur le site là, trouéparballe.ca puis effectivement, j'ai l'impression que autant pour les parents que pour les jeunes, c'est devenu une inquiétude ou un souci supplémentaire qui était peut-être moins présent que ça il y a une dizaine d'années. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec SOS Nancy, coach familial Nancy Doyon. Bonjour!
Salut, salut.
Le nouveau cauchemar de tous les parents.
Ouais, écoute, moi, quand j'ai vu ça passer, troué par balle, je me suis dit, my God, ils vont fort.
Oui. Là, tu vois les statistiques.
Ben oui, mais en fait, je me disais, hey, tu sais, la campagne, je la trouvais très négative, tout ça. Mais effectivement, ce que tu disais tantôt, c'est, ben, tu sais, si on arrive avec de quoi, de trop fleurs bleues, de trop.
Voici notre mascotte contre le crime chez les jeunes.
Oui, c'est ça.
C'est pas cool.
Les jeunes vont pas embarquer, tu sais. Fait que si on veut que les jeunes aillent voir, justement, qu'ils scannent les codes QR, puis qu'ils aillent voir, tu sais, aller chercher l'information, je pense que ça prend quelque chose qui secoue un peu tout le monde. Puis même pour les parents, pour qu'ils se sentent concernés, ben oui, il faut aller vers quelque chose qui est peut-être un peu plus fort. Et tu sais, effectivement, il y a une montée. Comme parent, il y a une inquiétude, mais l'inquiétude, elle est légitime, là. Tu sais, il y a quelques années, on parlait beaucoup, bon, du phénomène de prostitution juvénile. Oui. On a expliqué un peu, entre autres à travers la série Fugueuse, comment est-ce que le recrutement se faisait chez les jeunes pour qu'ils s'en aillent vers la prostitution juvénile. Bien, le processus de recrutement pour les gangs de rue est semblable. Donc, un jeune qui a le moindrement des difficultés scolaires, difficultés à se faire des amis, ou un jeune qui aurait des petites cornes, là, tu sais, mauvaise relation avec ses parents, devient une cible assez facile pour être recruté par les gangs de rue puis les gangs criminalisés. Et de plus en plus, on leur fait croire aux jeunes de dire, ben écoute, toi, si tu te fais arrêter, c'est pas grave. Fait que tu vas avoir de l'argent facile. Mm. Fait que, tu sais, bon, l'attrait de la facilité est intéressante. Tu vas avoir de l'argent facile, tu vas avoir plein d'amis, alors que, ben peut-être que jeune s'est toujours senti un peu à part. On va t'offrir une espèce de famille sur un plateau d'argent. Ils sont traités au début, là, tu sais, comme la 8e merveille du monde. Et tu vas rendre service à du monde, etc. Puis, ben toi, dans le fond, bon, si tu te fais pogner, c'est pas grave.
T'es mineur, hein?
T'es mineur.
Ça laissera pas des grosses traces.
C'est ça. À 18 ans, ton casier judiciaire va s'effacer.
Tu vas faire de l'argent vite, là.
Ouais. Le pire qui peut t'arriver, c'est de te retrouver en centre d'accueil pendant, mettons, une couple de mois. Et c'est pas tout à fait faux. Tu sais, les peines pour les mineurs sont vraiment... Tu sais, les mineurs ont beaucoup, beaucoup de chance avant de se retrouver avec un vrai casier en centre d'accueil.
Mais on fait ça pour essayer de les garder en dehors, justement, des prisons pour pas qu'il y ait de mauvais plis supplémentaires ou de nouveaux contacts qui se développent.
Exact, tu sais. Mais en même temps, en centre d'accueil, moi, j'ai travaillé là pendant 10 ans, en centre d'accueil, bien, t'as aussi du recrutement qui se fait à l'intérieur même des murs du centre d'accueil.
C'est quoi? Ils profitent de jeunes qui ont des insatisfactions, qui ont des griefs, puis ils voient des opportunités de les aider à s'émanciper, entre guillemets?
Ben oui. Et c'est ça, ils vont souvent trouver des jeunes qui vivent des problématiques, qui n'ont plus trop leur réseau avec leurs parents, qui sont en
conflit.
Des jeunes qui vont fuguer, entre autres, les jeunes qui fuguent, bien, effectivement, peuvent se retrouver assez rapidement pris au piège, parce que c'est vraiment un piège.
Mais ça touche aussi les familles plus stable?
Ça peut. Tout à fait. Tu peux être d'excellents parents. Ton jeune peut...
avoir toutes les chances d'envie.
Oui, avoir toutes les chances d'envie, mais quand même, tu sais, avoir des conflits. Hein, à l'adolescence, on a des conflits des fois avec nos jeunes. Puis le jeune peut facilement se faire enfirouaper par une gang.
Est-ce que tous les parents, d'après toi, Nancy, doivent avoir cette conversation-là avec leur jeune? Puis si tu dis... Ah, ben moi, mes jeunes sont corrects, ils n'iront pas dans ces affaires-là.
Ils sont d'un beau milieu.
Est-ce qu'on fait de l'aveuglement volontaire?
Oui, bien, je pense qu'effectivement, comme parents, on se doit d'avoir la discussion pour prévenir nos jeunes de comment ça fonctionne.
Qu'il y ait des signes ou pas, qu'il y ait profiter de l'actualité pour...
Exact. Okay. Puis qu'on jase avec nos jeunes filles de justement comment les filles se font ramasser dans les réseaux de prostitution. Il y a même des garçons aussi qui se font ramasser dans les réseaux de prostitution juvénile parce que, bon, mais aussi par rapport, tu sais, toute la manipulation auxquelles ils peuvent être confrontés. Je pense que comme parents, on doit avoir cette discussion-là. Puis si comme parents, on n'a pas le lien suffisamment fort avec notre jeune pour en parler, parce qu'on sait qu'il va rouler des yeux, on va dire ben oui, ben oui, ben je le sais, on peut mandater quelqu'un d'autre qui est un adulte qui est proche de notre jeune pour avoir cette discussion-là avec. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, mon père me disait tout le temps, « Nancy, quand tu sors d'un bar, fais attention à ton verre. Hein, quelqu'un peut mettre de quoi dedans. » Puis moi, je me souviens comment, quand mon père me disait ça, « Ben oui, papa, tu capotes. » Mais quand ça a été une jeune femme de 25 ans qui m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui avait mis quelque chose dans son verre, ah, là, tout à coup, j'écoutais. Fait que tu sais, des fois, ça peut valoir la peine de mandater quelqu'un d'autre.
Comment tu fais la différence entre une espèce de rébellion normale chez un jeune ado ou un glissement vers cette délinquance-là? Tu sais, Denis, permets-moi de prendre l'exemple, mettons, de ce que tu nous avais raconté du son des crises de ton plus vieux.
Ouais.
Tu sais, c'est banal, on s'entend.
Ben oui.
Mais comment tu fais la différence, justement, entre une espèce de période de rébellion plus normale où, au pelage, les fréquentations sont peut-être vraiment mauvaises?
Bien, tu sais, je pense que comme parents, on devrait voir les jeunes, tu sais, les amis de nos jeunes au moins une fois de temps en temps avant de leur permettre d'aller coucher ailleurs et compagnie. Tu sais, si notre jeune, on voit qu'avant ça, il y avait des intérêts, je sais pas, c'est un sportif, puis là, tout à coup, il abandonne tous ses sports, il est jamais à la maison, quand on parle de ses amis, c'est tout le temps vague, on sait pas trop il est où, avec qui il se tient, bien, tu sais, on peut avoir vraiment un peu la puce à l'oreille. Les notes qui descendent, le jeune qui performait à l'école, les notes descendent, là, tout à coup, il s'en fout de l'école. Ça a toujours été un jeune qui avait de la misère à l'école, ça, c'est autre chose. Mais tu sais, les notes scolaires, le jeune qui disparaît dans la nature, on ne sait plus trop y est où. On a conscience que, bon, il y a de la consommation de drogue, mais bizarrement, il y a tout le temps de l'argent dans ses poches, lui.
À partir de ce moment-là, j'ai l'impression que je serais le genre de parent à faire des erreurs dans mon approche. Comment on approche un jeune qui est dans ces conditions-là, puis que là, on commence à avoir des soupçons.
Puis on veut pas qu'il se braque, là.
Parce que là, si on y va en mode accusation, puis en mode conséquence, puis en mode punition, j'ai l'impression que ça peut faire en sorte que le kid se braque davantage, puis tombe davantage dans les mauvaises influences. Comment on se doit d'aborder ça quand on commence vraiment, là, pas la discussion pour prévenir, la discussion parce que là, on pense qu'il y a du trouble.
Oui, mais en fait, je pense qu'il faut ouvrir la discussion et le dire clairement. Je suis inquiet, j'ai tel, tel, tel indice. Qu'est-ce qui se passe? Mm-hmm. J'ai l'impression que... Est-ce que c'est possible que... Puis, tu sais, avoir une espèce de discussion ouverte, de dire, ben moi, je me souviens, il y a quelques années, une ancienne relation, son gars, justement, on pensait qu'il était peut-être d'un gang de rue. Puis, son père avait dit, écoute, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu feras, je veux que tu saches que je vais t'aimer de toute façon. Mm-hmm. Fait que je peux désapprouver ce que tu fais... mais je veux que tu saches que je vais t'aimer de toute façon. Puis j'ai l'impression que, gang de rue et compagnie, et ben, la journée où tu vas vouloir en sortir de ça, fais-moi signe, je serai là. Je vais t'aider à en sortir de
ça. Et que ça ne doit pas être évident de devoir tenir ce discours-là. Là.
Non. Puis là, ben, après ça, ça se peut qu'on soit obligé d'aller plus loin. Ça se peut qu'on soit obligé d'avoir des discussions corsées. Si on a un jeune, tu sais, qu'on pense sincèrement qu'il est dans trafic de drogue, prostitution, proxénétisme, les vols, etc. Ben, à un moment donné, il va falloir donner un coup de barre supplémentaire. Puis, ben des fois, il y a comme d'autres solutions avant d'aller vers centre jeunesse. Il y a certains parents qui sont obligés de dénoncer leurs jeunes. Appeler la police, le faire, on le fait par amour, mais parfois aussi, ça se peut qu'on soit obligé de signaler notre jeune à la DPJ quand il ne va plus à l'école, quand il ne va plus à l'école, il ne travaille plus, on sait qu'il se met en danger. Malheureusement, il y a des parents qui se retrouvent dans une situation où ils sont obligés de s'auto-signaler.
Hey, mais là, tu t'abonnes à un paquet de troubles puis de conséquences.
Mais c'est dans ça, tu vas chercher de l'aide puis tu vas chercher des outils. Là.
Ben voilà, c'est parce qu'à un moment donné, un parent ne peut pas gérer ça tout seul.
Mmh. Quand c'est rendu trop loin.
Exact. Ouais. Chez nous, on a développé, puis là, je dis « on », mais en fait, c'est même pas moi, là, mais une de mes coachs de mon équipe a développé un programme pour les parents dont les adolescents, présentement, présentent des signes qui s'enlignent vers la délinquance. Justement, elle vient guider les parents sur quelles questions poser, quelles limites mettre, parce que, tu sais, il y a des parents, justement, qui ont tellement peur de perdre le lien avec leur jeune ado, qui n'osent plus mettre aucune limite et qui laissent leurs jeunes faire n'importe quoi.
Ouais.
T'sais, il faut effectivement qu'il y ait quand même un cadre sans toutefois tomber dans l'excès de « je t'accuse, je te dis que tu me déçois, je tombe dans un contrôle excessif, je te suis partout. » Mais t'sais, en même temps, comme parent, ben, si je m'inquiète, ben, va peut-être falloir que j'aille voir les réseaux sociaux de mon jeune, va peut-être falloir que j'aille vérifier il est où. Moi, ça me fascine de voir le nombre de parents qui, la fin de semaine, ils ont des jeunes de 14, 15 ans, 16 ans, et la fin de semaine, ils ne savent pas où est leur jeune.
Ils
ne
voient pas.
Ouais. Ouais. Ça dure combien de temps, le bout, où ce qu'on n'est plus l'influence numéro un de nos jeunes? Je pose la question pour un père inquiet.
On dirait que ça commence de plus en plus tôt. Hein?
Oui, ben écoute, généralement, ça va durer un bon 3 ans facile, uh-huh. où l'influence là, supérieure, c'est les amis. Maintenant, quand on garde le lien, tu sais, dans les facteurs de protection, là, ce qui a été démontré, c'est que plus les parents mangent souvent avec leurs adolescents, plus ils préservent le lien. Puis là, ben, des fois, il faut leur mettre un gun sur la tente pour qu'ils mangent avec nous autres parce qu'ils voudraient être dans leur chambre.
Ça se fait, ça, hein?
Ben oui, tout à fait. Je t'exige qu'au moins 3 fois par semaine, tu manges avec nous.
De toute façon, gun sur la tente, pas on peut. Là, il est déjà d'un milieu criminel. Ben,
là, on parle pas de ceux-là. On parle de garder le lien avec les ados en général. Attention, mets pas les affaires.
C'est pas ça le message. Faire des activités avec nos jeunes, ouais. même si on est obligé de leur tirer l'oreille un peu. Garder un discours ouvert où on discute de comment je me sens par rapport à toi, mes inquiétudes, etc. Ça aussi, ça fait partie des facteurs de protection. Facteurs de protection, ben des règles, c'est plate, là. Mm-hmm. Mais tu sais, je veux dire, je vois beaucoup trop de parents d'adolescents jeter la serviette. C'est comme, ah, il y a 14 ans, il a attrapé l'adolescence, ben il y a...
On se reparlera à 18, là.
Oui, on se reparlera à 18, mm-hmm. là. Fait que tu sais, mon jeune a 14 ans, il boit de l'alcool à tous les fins de semaine, pas de problème.
Mm-hmm.
Je vais même aller y acheter. Il fume du pot. Ben ouais, mais le pot, c'est légal. Ouais, mais pas à 14. Moi, je vois les deux extrêmes. Puis là, t'as l'autre parent qui dit, ben non, mon jeune, il touchera pas de l'alcool avant 18 ans, puis il ira pas d'imparité avant 18 ans, puis je vais suivre tout ce qu'il fait. Fait que tu sais, les deux extrêmes, c'est des facteurs de risque.
Ouais. S'intéresser justement aux activités plus alternatives, la brosse de ton jeune ou quoi que ce soit, au lieu de faire la morale, est-ce qu'on tombe dans... normaliser ces agissements-là ou c'est une manière de garder le contact?
Ben, en fait, j'ai envie de dire, ça dépend de l'âge. Mmh. Tu sais, mon jeune qui a 14 ans puis qui me parle de sa brosse en fin de semaine puis qu'il a vomi partout puis que là, écoute, ça arrive à toi fin de semaine, que là, il vomit partout, mais là, on trouve ça drôle. Moi, ça devient normalisé. Moi, je suis pas d'accord. Mais si ton jeune, à 14 ans, fait dans ses premières expériences avec l'alcool, puis à un moment donné, il l'échappe, puis il te raconte ça...
C'est une belle discussion à
avoir. Ben là, on peut avoir une belle discussion, tu sais, sur « ouais, puis il faut faire attention, puis tout ça, il peut arriver plein d'affaires ». Mais après ça, ben tu sais, s'il a 16 ans, 17 ans, puis que mon jeune parle de ses parties... puis qu'on a une certaine ouverture. Fait que, tu sais, tout est un peu dans l'équilibre. Mm-hmm. C'est vraiment les deux extrêmes. Quand je tombe trop dans « il n'y en est pas question, je vais t'encadrer », mais là, c'est plus de l'encadrement, c'est du contrôle coercitif, là, tu sais, c'est comme ouais. « je te suis partout, puis là, il n'est pas question que tu fasses rien, puis chaque fois que tu pètes de travers, je te rentre dedans en disant que tu me déçois. »
Mais des fois, on tombe sans le vouloir, peut-être dans ces extrêmes-là. Puis ce qui fait du bien, c'est d'échanger. Si vous êtes encore un couple de parents ensemble, ben d'échanger, des fois, ça donne un peu de perspective. Vous êtes dans une famille reconstituée, ben ça peut aider d'avoir quelqu'un qui a une distance que toi, tu n'as pas nécessairement par rapport à tes enfants. Pour les couples séparés qui sont encore capables de se parler sérieusement, exactement. Ben tu peux des fois faire certains calculs de dire « Ah, OK, quand tu vas chez papa la fin de semaine, ça se passe comme ça, puis ainsi de suite. » Je trouve que c'est toutes des choses qui peuvent aider. Tu sais, moi, ma blonde, elle adore mes enfants, puis elle est importante dans la vie de mes enfants, mais elle a une distance qu'elle va toujours avoir que moi, je suis pas capable d'avoir. Fait que de faire rebondir, moi, les idées ou les intentions que j'ai par rapport à l'encadrement, les conséquences, la façon d'aborder le sujet, ça m'aide beaucoup de lui parler. Pas parce que je vais l'écouter tout le temps sur ce qu'elle dit puis qu'elle a raison tout le temps, mais ça me permet...
Mais
elle a moi,
un recul.
Exact, que moi j'aurai jamais, que je peux pas avoir.
Exact, puis c'est aussi ce que tu racontes, c'est aussi tout l'intérêt d'un programme comme ce qu'on a monté qui s'appelle le Gouvernail, où ben, c'est un programme de groupe pour parents qui vivent une situation similaire. Donc, il y a des webinaires où les gens sont ensemble, peuvent partager, raconter un petit peu leur vécu,
fait du bien de voir qu'on est plein à vivre les mêmes affaires. Là.
Oui. Oui, oui. Puis tu sais, des fois, entre autres, une des choses qu'on observe chez les parents qui ont des gens en trouble de comportement sévère, c'est un réflexe de suradaptation. Beaucoup de parents se mettent à marcher sur des œufs pour ne pas frustrer leur enfant parce qu'ils ont peur de perdre le lien,
ouais.
Parce que là, ils ont perdu à un moment donné l'autorité. Puis le jeune, à chaque fois qu'on lui fait vivre une frustration, c'est bien, je vais sacrer mon camp, je vais partir en fugue, puis je vais aller voir ma gang. Fait que là, tu as des parents qui ne savent plus trop jusqu'où ils doivent aller, jusqu'où je dis oui, jusqu'où je dis non, jusqu'où je mets des limites. Fait que tu sais, c'est l'intérêt de ce genre de programme-là où le groupe ensemble se soutient. Là.
Je comprends que c'est à une autre échelle, Nancy, mais tu parlais de parents qui veulent pas frustrer leurs jeunes, puis ça me rappelle des choses qui ont passé sur les réseaux sociaux. Un groupe de professeurs qui échangeait des demandes un peu farfelues qu'il y avait eues, puis il y avait mère qui avait demandé à la prof « Pouvez-vous m'appeler à 20 heures pour demander à mon garçon s'il a fait ses devoirs? Parce que si moi je le fais, là, j'ai peur que ça parte une chicane, puis ça va bien ces temps-ci à la maison. » Ben oui!
ouais, mais effectivement, j'en vois beaucoup de parents, tu sais, qui marchent sur des œufs, mais bon, il y a le parent qui n'a pas raison de marcher sur des œufs, mais quand tu as un enfant en trouble de comportement sévère, quand tu as peur de le perdre, ton jeune, c'est plus tentant de marcher sur des œufs, c'est plus tentant d'éviter les frustrations plus possible. Fait que, tu sais, les parents ont besoin, justement, d'avoir parfois un regard externe de la part d'un intervenant, d'autres parents, ou comme tu disais tantôt, notre entourage proche, pour dire, bien, OK, je peux me livrer, je peux expliquer ce que je vis, je peux parler de mes frustrations sans gêne, sans honte, parce que c'est souvent ça aussi. Les parents qui ont des jeunes délinquants, parenthèse, ont honte, n'osent pas en parler. Fait que, tu sais, pouvoir en parler avec des gens sans avoir honte, sans recevoir de jugement, puis avoir un avis externe d'un intervenant qualifié.
Mm.
Fait que ça fait une différence majeure.
SOS Nancy, Nancy Doyon, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir, puis j'invite les gens à aller voir sur ma page Facebook SOS Nancy Coaching Familial. Il y a toutes les informations, justement, là, pour le programme Le Gouvernail, si c'est une réalité
ça
qui vous parle.
Mm.
Puis peut-être donner l'adresse aussi là, de la campagne qu'on avait parlé en début de conversation,
Troué par balle.
C'est T-R-O-U-E par balle, pas de S, point CA. On s'arrête pas longtemps, on revient. Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour.
Gravel dans le retour.